Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 16.
On est de retour au 16. Émilie, tu nous parles de la santé féminine?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est le 28 mai. Je check ça, oui, pour être sûre, ça serait malaise. Et on fête une journée internationale très importante qui n'est pas assez mise en lumière, selon moi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale d'action pour la santé des femmes.
Ah!
Oui, oui. Puis c'était, voyons, c'est une journée qui a été instaurée en 1987, donc ça fait quand même quelques années déjà, presque 40 ans. Puis ça a été instauré au Costa Rica lors de la rencontre internationale sur la santé des femmes.
Arrête donc!
Oui. Puis, bien sûr, on s'entend à cette lutte pour la santé des femmes. C'est une lutte quotidienne, mais je trouve ça quand même important de ramener ça en lumière là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la santé des femmes partout dans le monde, que ce soit des enjeux économiques, sociaux, culturels ou politiques. À ce jour, même au Canada, même au Québec, il y a encore beaucoup de déséquilibre entre les hommes et les femmes en termes d'accès à des services de santé, bien que c'est prouvé que les femmes ont d'ailleurs davantage besoin de prise en charge autre que juste par rapport aux besoins de santé, par rapport à la reproduction, par exemple. Mm-hmm. Pour vous donner des exemples, les maladies cardiovasculaires vont souvent être moins diagnostiquées pour les femmes parce que souvent, ça va être perçu comme de l'anxiété. Mm-hmm. Ou encore, on a souvent la tendance à penser que les femmes ont une meilleure tolérance à la douleur que les hommes. Donc, on va tout simplement esquiver leurs symptômes. Ou encore une fois, plus un petit peu au niveau de la santé mentale, mais l'autisme va être encore moins diagnostiqué chez les filles parce que souvent, les indicateurs qu'on va voir, par exemple, le peu d'échanges sociaux ou des affaires comme ça, bien, ça va être lié à de la réserve, à de la timidité. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que c'est encore très d'actualité, là, vraiment. Puis, t'sais, pour parler un petit peu plus de nos expériences, si vous êtes à l'aise d'en partager, t'sais, c'est sûr que...
Angie.
Ouais. Moi, personnellement.
J'avoue, mais tu sais, t'es entourée quand même de femmes dans ton quotidien.
Oh, ouais.
Fait que, mais c'est ça, c'est troublant quand même de voir ça. Puis tu sais, je dis ça en tant que femme, puis je sais que je me reconnais que je suis quand même dans un milieu privilégié.
Oui, oui,
je suis une femme blanche, j'habite au Canada. C'est ça, tu sais, c'est troublant quand même de voir ça. Est-ce que vous avez des choses à partager, la gars?
Moi, je me prononce pas, là. J'attends
Gage. Non, c'est pas grave, parce que je voulais pas m'enlever.
Ouais, fait que je trouve ça vraiment important qu'on le mette plus de l'avant, là, comme tu l'as dit. Puis moi, j'ai fait mon stage à la Fondation du CHU.
Oui.
Pendant mon stage, on a mis sur pied une nouvelle charte de recherche pour la santé des femmes.
OK.
Qui va être justement... c'est ça. Par la Fondation du CHU, mais c'est une charte de recherche du centre universitaire là, du CHU.
Okay.
Puis c'est vraiment pour avoir plus de recherche pour la santé féminine et tout. Mm-hmm. Puis je trouve ça vraiment cool. T'sais, c'est...
Parce que souvent, la recherche est faite par des hommes, là, veux pas, et donc pour des maladies qui touchent plus les hommes. Mm-hmm. Je veux pas trop me prononcer parce que j'ai pas fait de recherche contrairement à Émilie sur le sujet, mais...
Mais c'est ça, mais j'ai fait comme plus un portrait général, mais aujourd'hui, je voulais plus parler de précarité menstruelle. Mmh. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tous les enjeux qui entourent le fait d'avoir de la difficulté à te procurer des produits hygiéniques quand on a ses règles. Mm-hmm. Et puis quand même, là, souvent, une femme va avoir ses règles pendant 40 ans de sa vie. Fait que c'est...
Oh my God! C'est vraiment long. Moi, j'aimerais que ce soit optionnel. On veut tout
ben
parler.
C'est ça. Puis...
Tu coches là ta naissance.
C'est ça.
Un petit
formulaire. Je veux des enfants.
Ouais, c'est non, ça. Toi. Puis sur ces 40 ans-là, c'est 6 000 $ de coût que ça va engendrer pour te procurer les produits hygiéniques qui existent. Puis... Vas-y.
Mais est-ce qu'on peut se parler, par contre, du mouvement des entreprises qui...
Ben, c'est ça.
Oui, tu vas en parler, mais je vais te laisser y aller, okay. Là, mais je trouve ça...
Ben, c'est ça, parce que c'est vraiment quand même un enjeu, parce que, tu sais, là, avec le coût de la vie qui augmente, tous les enjeux sociaux qu'il peut avoir, culturels et politiques, que j'ai pu parler un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment important. Fait que c'est ça que je voulais mettre en lumière, malgré le fait qu'il y a encore des obstacles, les bons coups qui ont été faits dans les dernières années par soit des pays ou les entreprises qui ont été de l'avant pour rendre les produits hygiéniques un petit peu plus accessible. Puis ça commence en 2022 avec l'Écosse qui ont rendu les produits sanitaires gratuits à travers les écoles de différents niveaux dans l'ensemble de leur pays. Puis,
je trouve ça important aussi à l'école parce que souvent, exact. C'est à l'école que tes règles vont commencer. Absolument. Puis tu traînes pas toujours tout ça. Puis, hey, non, c'est anxiogène là, quand tu as genre 12 ans. On s'entend.
Exact. Puis la précarité vient aussi parfois du milieu familial. Fait que si t'en as pas accès à la maison, mais d'en avoir au moins une ressource dans les milieux scolaires, c'est super important.
Puis on s'entend-tu que c'est quelque chose de nécessaire, là? T'sais, c'est pas comme... Absolument. C'est vraiment... une option,
c'est
là,
ça, là, c'est pas...
C'est comme nécessaire. Fait que je vois pas pourquoi, justement, ça serait pas offert n'importe, t'sais, dans les milieux de travail, à l'école. Je trouve ça vraiment important, moi aussi.
Ben, pour faire du pont là-dessus, il y a la Catalogne, qui est une région du nord de l'Espagne, qui s'est inspirée du mouvement qui a été fait en Écosse pour... elle aussi se met à lutter contre ce mouvement-là. Puis, quand même, ils ont instauré un programme que dans plus de 3000 pharmacies maintenant, ils offrent les produits hygiéniques, mais cette fois-ci réutilisables dans les pharmacies.
Ah, okay.
Contrairement à l'Écosse, qu'eux, ils distribuent des produits à usage unique, ben, ils ont décidé d'investir dans des produits réutilisables. Fait qu'en plus de lutter contre cet enjeu-là, mais ça lutte aussi contre les
quand mettons des DivaCup.
Exactement.
Y en a-t-il d'autres?
Il y a des culottes.
Il y a des culottes que tu peux réutiliser. Fait que c'est plus ça qui distribue que le DivaCup, mais DivaCup ou là.
Non, en plus c'est environnemental. Ben,
exactement. Ça diminue l'empreinte écologique. Fait qu'on aime.
Exactement. Puis, le Canada a commencé à encourager justement les entreprises à faire de même, mais il n'y a rien qui est encore fait par le gouvernement, autant provincial ou fédéral. Mais je voulais souligner justement Andréane Marquis, qui est une entrepreneuse qui est propriétaire de Women's et de Sans Façon, la compagnie pharmaceutique. De cosmétiques, excusez. C'est pas la même chose. Puis, au mois de mars dernier, en même temps que la Journée internationale du droit des femmes, elle a lancé une campagne sur le web que moi, je l'ai vue personnellement sur LinkedIn, qui, justement, revendiquait l'accessibilité aux produits hygiéniques. Puis, elle voulait dénoncer à quel point, pour une entreprise, c'était vraiment un coût minime de, justement... de justement fournir les produits hygiéniques aux personnes concernées dans son entreprise. Puis elle a fait une grande campagne qui disait que ça coûtait que 7 cents par employé qui a à être déboursé pour tes employés pour justement être en mesure de leur offrir des produits hygiéniques gratuitement sur leur lieu de travail. Puis avec ça, elle a fait une grande campagne là, qui est devenue un peu virale. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi.
Moi, je l'ai vu puis j'ai trouvé ça tellement pertinent. Puis tu sais, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire qu'un employé, un ou une employée qui va dans une organisation qui fait des changements, qui apporte des changements comme ça, qui évolue comme ça, ça amène tellement un espèce d'effet positif. Tu sais, quand tu travailles pour une entreprise comme ça, je trouve ça hyper, hyper positif. Vraiment, là.
Absolument.
Exact. Puis c'est ça, ça l'a full généré des belles réponses. En tout cas, en dessous de sa publication qu'elle avait faite sur LinkedIn, il y avait plein d'entrepreneurs, autant des hommes que des femmes, qui disaient vouloir embarquer dans le mouvement, puis justement que ça allait permettre de rendre un milieu un petit peu plus ouvert. Puis en tout cas, pour ma part, moi, c'est sûr que je trouve ça que ça montre l'inclusivité, puis faire en sorte que justement, on ait un milieu de travail un petit peu plus inclusif.
Totalement.
Fait que c'est ça.
Pour vrai, c'est super intéressant. Vous regarderez qu'est-ce qui se passe pour cette journée de la santé féminine.
Yes.
Merci, Émilie. On se retrouve à 5h30 avec une petite surprise.